Ensemble la parole de Dieu, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 3 cette fois-ci. Donc c'est la sixième étude, si vous voulez un titre. C'est l'histoire d'une vigne et des petits renards. La séduction. Donc Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 7. Voici la litière de Salomon. Et autour d'elle, 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Et il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, fille de Sion, regardez le roi, avec la couronne dont sa mère l'a couronnée, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Deuxième lecture, toujours dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6 et au verset 8. Chapitre 6, verset 8. Il y a 70 reines, 80 concubines, 60, pardon. Il y a 60 reines, merci. 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Amen. Nous avons considéré dans une précédente étude comment la Sulamite s'est retrouvée dans le cortège royal et finalement dans les appartements du roi. On sait qu'elle était un petit peu oisive, qu'elle était attirée par ce cortège devant elle, la musique, les danses et tout ce que vous voulez, la beauté, tout ce qu'il y avait, l'éclat, le faste bien sûr. Toutefois, nous savons que malgré la tentative de séduction du roi, le cœur de la Sulamite, il est ailleurs. Rappelez-vous, elle aspire à enfin se retrouver en communion avec son berger, celui que son cœur aime et qui est absent. Alors qu'elle se trouve dans cette situation dangereuse, je répète, mais la Sulamite, elle pense à son bien-aimé. Amen. Celui que son cœur aime, son berger. Il est absent, mais pas tout à fait, puisqu'il est dans son cœur. Alors pour nous, enfants de Dieu, nous soupirons bien sûr après notre bien-aimé Seigneur. Alléluia. Il est encore invisible, bien sûr, à nos yeux, mais il est omniprésent par son esprit. Ce soir, où est-il? Il est ici, au milieu de nous, puisqu'il vit dans nos cœurs. Ce soir, nous sommes entrés avec lui. Amen. Tout à l'heure, il partira avec nous. Mais là, ce soir, il est là au milieu de nous parce que nous sommes rassemblés, tout simplement en son nom. Alors, par cette description du cortège royal que nous venons de lire tout à l'heure, nous pouvons comprendre que la Sulamite, elle peut être impressionnée par, le faste, l'ampleur, la majesté de ce cortège royal. Vous savez, les yeux, ils sont pour quelque chose quant à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Eh oui. Attention, nous dirigeons notre regard, nos yeux. Il y a des choses qui peuvent quelque part nous atteindre et nous faire du mal, plus que du bien. Amen. Alors, c'est un autre aspect de la séduction qui peut en effet avoir un côté très, très attirant et qui correspond aux attraits que le monde justement peut placer devant nous. Vous savez, s'il y a quelque chose qui ne nous impressionne pas, qui ne nous a jamais attiré, le diable, l'ennemi de nos âmes, ne va pas mettre cette chose-là devant nos yeux. Il va mettre quelque chose qui, quelque part, va nous attirer. Quelque chose qui va nous donner envie plus que tout et nous faire succomber. Donc, pour ça, je disais, le regard, ces choses-là, l'aspect de cette séduction, elle est là. Le diable passera devant nous quelque chose dont nous avons envie. Ayons envie du Seigneur. Plus que toutes ces choses qui brillent ici-bas. Amen. Nous devons donc faire attention, être vigilants, pour ne pas tomber dans les pièges de l'adversaire. Mais il y a également différents aspects de la séduction. Je dirais plus subtils lorsqu'ils sont sur le plan spirituel. Et c'est particulièrement sur celui-ci qu'il nous faut veiller. L'aspect spirituel. Ne pas sortir hors du cadre des Écritures. Amen. Ne pas sous-estimer l'adversaire dans ce sens-là. Il est appelé le singe de Dieu. Le singe, c'est celui qui veut faire comme ou croire que. Mais c'est un menteur, lui. Et il faut le dévoiler. Amen. Parce qu'il va exercer sa séduction. S'il y a quelque chose qui m'attire sur le plan spirituel, ça peut être pour moi une peau de banane. Donc j'ai besoin de vérifier que c'est dans le cadre des Écritures. C'est dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus le recommande. Il en parle. Ça, le Seigneur dit que c'est pas bon, c'est interdit. Eh bien, je ne vais pas, quelque part, être attiré par cela. Je vais tout faire pour ne pas l'être, en tout cas. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 4, Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. La version parole de vie traduit « Faites attention. Ne vous laissez pas tromper. » Ceci est dit, bien sûr, dans un contexte particulier. Ça nous révèle finalement les troubles et les graves événements de la fin des temps, puisqu'il en parle dans ce sens-là. La version parole de vivante traduit « Soyez sur vos gardes et faites bien attention pour que personne ne vous induise en erreur. » Sous des aspects gentillés, vous avez des personnes qui peuvent chercher qu'une chose, c'est de vous tromper. Amen. Oh, gentil, c'est tout d'abord, voilà, formidable, serviable, mais pour vous donner ou pour mettre sur votre chemin une peau de banane, pour redonner un cadeau empoisonné. Hein. Alors, gardez-vous d'être séduit. Pourquoi ? C'est un sérieux avertissement pour nous. Être séduit, c'est être trompé, c'est se trouver égaré, c'est être abusé. On a abusé de ma confiance, je lui faisais confiance. Et regarde la manière dont il s'est comporté. Regarde ce qu'il m'a dit. Maintenant, je suis troublé. Je ne sais plus où j'en suis. Vous voyez, ça va vite. Ça va vite. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 13, dans la version de Louis II, Ève va dire ceci. « Le serpent m'a séduite. » Littéralement, c'est « Le serpent m'a trompé. » Les versions paroles de vie et synodales reprennent d'ailleurs le même mot, tromper. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Il m'a trompé. Lui, il savait. Il savait que c'était un bobard. Il savait qu'il ne fallait pas. Mais le serpent, c'est son rôle, c'est l'image de l'ennemi de nos âmes, le diable bien sûr. Son rôle à lui, c'est de nous tromper, de nous égarer, de nous séduire. Nous faire tomber, de nous amener tout simplement à douter ensuite du Seigneur. Faire en sorte qu'il n'y ait plus cette communion. Une fois qu'on est tenté, une fois qu'on a été séduit, qu'on a plongé dedans, est-ce qu'on a envie de retrouver la communion avec le Seigneur ? On a honte. On a honte. Donc on n'a plus envie de chercher quelque part sa présence, parce qu'on sait qu'il y a un reproche en nous. Alors bien sûr, c'est là qu'il faut laisser tomber l'orgueil et dire « Seigneur, pardonne-moi. Je m'humilie devant toi, je n'ai pas été quelque part vigilant, je me suis laissé séduire. » Amen. Alors Paul, de la part du Seigneur, nous avertit dans plusieurs textes à propos de la tromperie et de la séduction. Colossiens chapitre 2, verset 8 et 8 à 10, pardon, dit ceci « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, et c'est le verset 10, pardon, vous avez tout pleinement à lui. » Quelquefois, on est bête. On se laisse embarquer dans des histoires pas possibles, parce qu'on croit qu'il y a un gain derrière, parce qu'on croit que c'est dans la volonté de Dieu, alors que j'ai tout pleinement en Jésus. Et je vais chercher des artifices. Je vais chercher un appui quelque part. Allez, je vais m'associer à quelque chose. Non, j'ai tout pleinement en Jésus. Amen. La version synodale traduit « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, comme tout à l'heure, selon les éléments du monde et non selon Christ. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. » il est au-dessus de tout. Amen. Est-ce que vous préférez, dans le domaine de l'art, l'œuvre d'art du maître signée par lui, ou est-ce que vous préférez la copie? Moins de valeur, bien sûr. Je ne parle pas que la valeur marchande, mais déjà au niveau l'aspect humain. Amen. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. Alors, littéralement, tiré du grec, c'est également « Prenez garde qu'il n'y ait quelqu'un qui vous amène comme une proie par la philosophie et une vaine tromperie. » Alors, cette vaine tromperie, et que l'apôtre a en vue, en parlant des fausses spéculations, décorées, voyez, bien impactées hein, par leurs auteurs, un homme pompeux qui est là également, la philosophie, c'est la tromperie. Amen. Alors, ces deux termes, dont l'un explique l'autre, eh bien, n'exprime qu'une seule et même idée. Paul, d'ailleurs, ne veut pas condamner, hein, sous le nom de philosophie, toute recherche de la vérité, parce que nous voulons de la vérité, nous voulons marcher dans la vérité, nous sommes des gens de la vérité. Donc, nous ne voulons pas être trompés nous-mêmes. Mais tout effort de l'intelligence humaine, par exemple, pour arriver à une révélation plus complète, des grandes questions qui s'imposent, eh bien, pas plus qu'ils ne répouvent, je dirais, le désir et le besoin qu'a la pensée, quelque part, de se rendre compte des vérités, également des faits, de la révélation, afin de pouvoir les apprécier. Vous voyez, toutes ces choses-là, Paul n'est pas contre. Mais il dit, soyez prudents, vérifiez. Ton cœur est-il en paix quand tu te lances dans une aventure? C'est quelque part un baromètre. Hein, si ton cœur est en paix, ok. Tu as bien demandé au Seigneur. Si Dieu veut, est-ce que vous l'appliquez souvent? C'est important. Si Dieu veut, oui, on ira, on fera. Amen. Parce que si Dieu ne veut pas, ben ça ne se fera pas. Hein, il y aura la porte qui va se fermer, il y aura des choses qui ne pourront pas se faire. Alors, que des hommes professent admettre cette révélation, rejettent par incrédulité et par orgueil ce qui en fait l'essence, à savoir ici le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, amen. Voilà la tromperie contre laquelle l'apôtre Paul mettait en garde les croyants de son époque. Amen. Il y a bien d'autres choses sur lesquelles nous devons être vigilants et quelque part en garde. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'ai entendu des choses concernant le Saint-Esprit. Oh, un jour, une dame m'a dit, « Pasteur, priez pas pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. J'en veux pas. » Je dis, quand même, vous n'en voulez pas, vous êtes sûr de vous? Oui, oui, parce qu'on m'a expliqué des choses, alors pour avoir ça, j'en veux pas. Mais attendez, c'est pas parce qu'il y a des gens déséquilibrés, qui sont peut-être pas clairs justement vis-à-vis du baptême dans le Saint-Esprit et de la vie de l'Esprit, que vous devez vous-même rejeter ce que le Seigneur déclare comme étant quelque part très important pour nous, vital pour la fin des temps. Amen. Donc j'ai besoin, hein, quelque part, de vérifier, d'être vigilant, de ne pas me laisser séduire. Restons dans le cadre des Écritures. Parce que si le papa nous arrêter, il va essayer de nous amener plus loin, de sortir, et de nous faire admettre certaines choses, qu'un chrétien peut être possédé, et autre chose semblable. Ou je suis lumière, ou je suis ténèbre. Mais je ne veux pas être un peu ténèbre, un peu lumière. Ou je suis né de nouveau, ou alors je suis encore dans mes péchés, je suis perdu. Amen. Mais ça se voit. Non? On reconnaît l'arbre à son fruit? Alléluia. Alors oui, je suis un enfant de Dieu. Je dois désirer tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Tout ce que le Seigneur met à ma disposition, tout ce qu'il me propose. Parce que c'est des propositions qu'il nous fait dans sa parole. Amen. Alors Paul s'est opposé énergiquement à ces chrétiens, déjà judaïsants pour certains, qui faisaient un amalgame des traditions, des spéculations païennes avec certaines vérités du christianisme. Il construisait ainsi un système théosophique hein, qu'ils estimaient, eux, plus élevé et plus profond que le simple évangile. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que nous devons devenir comme des enfants, simples comme eux, pour voir et accéder au royaume de Dieu? Ben oui. Hein. Alors, leur système y reposait tout entier sur les éléments du monde et non sur Christ, comme le dénonce l'apôtre Paul. En tout cas, il reste vrai, encore aujourd'hui, comme alors. Je dirais que toute sagesse, toute philosophie qui peut essayer d'accommoder le christianisme à ses vues, mais qui va en retrancher le mystère, par exemple, de la crèche à Bethléem, oui, Jésus est né dans la crèche à Bethléem. La croix au calvaire, oui, Jésus est mort à cause de mes péchés. Il est mort sur le bois de la croix. Amen. Il ne s'est pas endormi, on n'a pas caché son... Non, non, il est mort, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Amen. Toutes ces choses qui sont là justement pour, eh bien, quelque part, nous faire croire que, allez, c'est peut-être une manière philosophique qu'il faut le voir, ça ne sert qu'à dénaturer, ça ne sert qu'à obscurcir, hein, ça ne sert qu'à, quelque part, masquer la vérité. Amen. La vérité, elle est là. Hein, ce n'est pas de la tromperie. Jésus est monté sur le bois de la croix. Il a été crucifié, mais il est ressuscité à l'aube du troisième jour. Amen. Une telle philosophie, celle que veulent placer les hommes, ça va substituer ce qui fait la force de l'évangile. Amen. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, et ce n'est pas une nouvelle au rabais, mais c'est la plus importante nouvelle que l'histoire ait pu connaître. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 4, verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef et le nom Christ. » Amen. C'est en Jésus que nous pouvons être fortifiés, marcher. La version synodale reprend donc, je reprends ce verset dans cette version-là, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là, par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les artifices de l'égarement. » Et ici, Paul met en opposition enfants et hommes faits. Amen. Paul expose d'abord ce qui empêche les progrès. Hein, ici, c'était vers l'unité parfaite. Puis ensuite, il va indiquer les moyens positifs afin de réaliser ces progrès. Voilà comment vous devez vous comporter, voilà à quoi vous devez vous attacher, voilà ce que vous devez renier, voilà ce que vous devez rejeter, et voilà ce que vous devez rechercher. Amen. On n'est pas sur, je dirais, sur un chemin, je vois une image de brouillard, je ne sais pas trop où on en est, hein. Est-ce que c'est au prochain carrefour, on ne sait pas trop. On dirait qu'ils ont changé la signalisation, on sait, non, non, c'est clair. Hein. Amen. Restez enfant dans la foi. Et la connaissance, c'est courir les risques de flotter à tout vent de doctrine. Pour ça, il dit, soyez des hommes faits, hein, comme un vaisseau qui serait quelque part sans gouvernail. Hein, voilà le principal empêchement déjà à l'unité, à l'expérience qui confirme, je dirais, abondamment le jugement de l'apôtre. C'est là, tout simplement, oui, vous voulez être unis, devenez des hommes. Des femmes, hommes faits, femmes faites, amen, mais des vrais, gloire à Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Alors ces doctrines, ou ces fausses doctrines, ne sont jamais des erreurs purement intellectuelles ou innocentes. Le diable sait très bien ce qu'il fait. S'il y a dans le cœur de l'homme une faille, quelque chose, ou si vous préférez un dada, qui fait son cheval de bataille, eh bien le diable va aller l'amener hors du cadre des Écritures. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas innocent. L'Écriture nous y montre toujours, derrière tout cela, une tendance morale, le fruit du cœur corrompu. L'orgueil va amener toujours l'homme vers sa perte. Le désir, sur le plan immoral, va toujours le conduire tout simplement à la chute. Amen. Ainsi, Paul attribue, je dirais ici, la tromperie des hommes. Le mot grec exprime la tromperie d'un homme qui joue avec des dés qui sont falsifiés, pipés, comme on dit, et qui trichent au jeu, tout simplement, et à leur ruse, ce qui est conforme aux artifices, aux voies détournées et de l'égarement ou de l'erreur. Donc, c'est clair. La personne qui vous branche sur quelque chose de particulier, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien à qui elle s'adresse. Amen. Alors soyez des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes de Dieu. Ajoutons enfin Hébreux 2, 2, versets 1 à 4, où il est dit, c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui en entrée d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors littéralement, c'est de peur que nous ne coulions à côté. Hein? Un petit peu comme un vaisseau qui, au moment d'aborder, est emporté loin par le courant et est entraîné vers sa perte. Puis il n'est plus conduit, il n'a plus de gouvernail. Hein? Donc il va être entraîné au gré des courants. Et ça, c'est dangereux. Alors cette sérieuse exhortation, c'est quelque part une conclusion qui est liée à la grandeur du Seigneur. Et l'auteur motive, je dirais, son avertissement en signalant la responsabilité encourue par ceux qui vont négliger les vérités du salut. Amen. Les vérités en ce qui concerne le royaume de Dieu. Alléluia. Je suis pardonné. Et je ne me laisse plus arrêter par l'adversaire qui me dit que je ne suis pas beau, que je ne suis pas bon, que je suis encore imparfait. Je le sais. D'accord ? Je ne suis pas parfait. Ben oui, il n'y a personne ici. Pas qu'ici, hein, ici-bas. De parfait. Il n'y a que le Seigneur. Donc, je ne vais pas me laisser arrêter. Hein, ces avertissements sont là. Je ne vais pas, quelque part, me laisser troubler. Amen. Hein, par ces avertissements, nous comprenons tout danger qu'il peut y avoir dans la séduction hein, spirituelle. Chaque année, nous le savons, des divers courants spirituels traversent notre pays, apportent comme cela des hérésies, des fantaisies délirantes qui vont troubler l'Église, troubler le cœur de l'enfant de Dieu. Amen. Alors comment se protéger de ces tromperies? Non seulement en nous attachant aux choses que nous avons entendues, la parole de Dieu, amen, la parole de Dieu, telle que Dieu nous la donne, qu'il nous l'a fait comprendre par le renouvellement de l'intelligence, amen, mais également en nous attachant au Seigneur lui-même. Hein, notre communion avec lui étant notre meilleure protection. Amen. Si nous avons une communion avec lui, si nous entretenons cette communion, nous apprenons à discerner, à comprendre, à saisir ce qu'il veut nous dire. Amen. Nous connaissons sa voix. Hein, les brebis me connaissent. Elles ne suivront point un étranger, mais elles suivront la voix du bon berger, etc. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit, nous le savons, il glorifie Jésus. Amen. Son rôle est de faire de nous de nouvelles créatures et ainsi nous faire vivre tout ce que le Seigneur a prévu est pour sa gloire et je dirais notre avancement spirituel. Nous devons marcher avec lui, en plein accord avec sa volonté. Amen. Alors ce que nous sommes appelés à vivre est là, c'est révélé tout simplement dans sa parole. Hein. Le livre des Actes proclame que les premiers chrétiens ont vécu dans la première écrite épître aux Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Et Paul rappelle ses richesses spirituelles, toutes ces glorieuses expériences que le Saint-Esprit veut nous manifester à travers de nos vies, eh bien, nous exhorte quelque part à aspirer. Aspirer, par exemple, aux dons spirituels. Amen. Vous savez ce que c'est que l'aspiration? Vous voulez faire monter un liquide qui est dans votre verre via une paille, vous avez besoin, ça ne montera pas comme ça, hein, la loi de gravité est là, hein, mais vous devez faire monter ce liquide comme cela. Et c'est la même chose. Hein. Donc aspirer, ça demande donc une recherche, un effort de notre part. Et le verset 12 précise, pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification de l'Église. Amen. Alors lorsque les chrétiens négligent de vivre toutes ces choses glorieuses que le Saint-Esprit, que le Seigneur a préparées, hein, qui veut leur communiquer par l'Esprit, ils sont alors spirituellement eh bien, insatisfaits. Et dès lors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont facilement accessibles à ce qu'on va appeler les séductions de l'adversaire. Il va nous susurrer à l'oreille, hein, parce qu'on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Ah, voilà, tiens, si tu goûtais à ça. Tu sais, hein, il se passe des choses là-bas, si tu savais. Et puis, il travaille, voyez. Alors, j'aimerais finir avec un autre danger. Il est là, Cantique 2,15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Alors il y a ici une de ces paroles énigmatiques qui mettent en quelque sorte aux abois les interprètes, bien sûr. C'est en tout cas un fragment de chansons populaires de l'époque que s'approprie la Sulamite. Et pour répondre un petit peu à la demande de son bien-aimé, elle n'était pas très claire dans sa réponse. Et oui, lui, il veut l'entendre, il ne veut pas cette réponse-là. Elle veut que lui dise « Je suis là, mon ami, je monte, je me dépêche, j'arrive, on va franchir le mur, voyez un petit peu. » Mais là, elle répond tout simplement « Prenez les renards, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Ah, ça, c'est le contexte. Alors, dans son application primitive, on se demande si elle doit être prise au sens propre, comme un ordre à des jeunes filles, et de quelque part de veiller à la garde des vignes, à un moment où elles sont exposées à, bien sûr, des déprédations causées par les jeunes renards, les jeunes pousses, les jeunes renards, bien sûr, où il faut, comme l'ont entendu plusieurs, y voir une invitation figurée à ceux qui ont à surveiller les jeunes filles pour les mettre en garde contre, eh bien, ces jeunes renards, ces galants, si vous préférez. Eh oui. Alors, quoi qu'il en soit, nous voyons, il y a un appel à la vigilance, un appel à la prudence, un appel également à, quelque part, à être en éveil. Amen, parce que c'est vite arrivé. En tout cas, les vignes dont parle la Sulamite peuvent aussi représenter, comme au chapitre 8 et verset 12, à la terre de Canaan. Et là, les déprédations des renards et des razzias qui ne cessaient de se faire en Canaan, c'était les Philistins et c'était les Syriens. Donc, est-ce qu'on peut le voir comme cela? En tout cas, l'obligation imposée à la Sulamite ou à Sulamite de garder les vignes, parce que c'est ça qu'on a fait, on l'a obligé, représentait alors une sorte de service militaire. Amen. L'armée, vous voyez, auquel Israël était soumis, parce qu'il devait protéger quelque part, se protéger des agressions, répéter tout simplement, réprimer également ces agressions, être vigilant, de faire en sorte de ne pas qu'il y ait de pertes. Amen. Ça nous parle à nous aussi, de veiller sur nos âmes, de veiller sur nos vignes, sur notre cœur, afin que nous soyons protégés. Nous nous rappelons également au chapitre 6, verset 1, où la Sulamite dit « Ils m'ont fait gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Rappelez-vous, elle s'est retrouvée. S'il avait veillé sur son cœur, elle n'aurait pas suivi ce cortège royal. Elle ne serait pas dans les appartements du roi. Alors la version parole de vie traduit chapitre 6, verset 1er. « Mes frères étaient en colère contre moi, ils m'ont forcé à garder les vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Littéralement, ne vous étonnez pas, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est-à-dire que je n'ai pas été vigilante, je n'ai pas veillé. Ces paroles de la Sulamite sont, je dirais, prises par la plupart au sens littéral, mais en fait, elles leur enferment certainement une allusion au changement défavorable qui s'est produit à l'époque de Salomon, où Israël va perdre sa liberté primitive, ce qu'ils avaient acquis, ce que David avait acquis, ça va se perdre au fur et à mesure. On sait que Israël va finir par deux royaumes, divisés, séparés. Alors enfin, que comprendre dans ce qu'elle dit « ma vigne à moi ». Les uns entendent par là sa beauté, d'autres sa liberté, d'autres sa pureté. Savons que la Sulamite, entraînée par le cortège du roi Salomon, dont la grandeur et la majesté l'ont tant fascinée, s'est retrouvée dans les appartements du roi. Elle n'est donc plus à sa place. Pour faire un parallèle, donner une image, elle n'est plus dans sa vigne. Elle n'est plus là où elle devrait se retrouver. Elle est ailleurs. Donc il est important pour nous que nous soyons là où le Seigneur nous veut. Amen. Dans la condition de cœur dans lequel le Seigneur veut nous trouver. La disposition morale dans laquelle le Seigneur veut nous trouver. Donc veillons sur notre vigne. Veillons sur notre vie spirituelle. Amen. C'est un enjeu important, se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de l'Évangile. Attristé le cœur de notre Dieu. Amen. Le faire souffrir. Devoir galérer, excusez-moi pour le terme, mais pour revenir. Parce que quand on a péché, quand on a été induit en erreur, quand on a été trompé ou qu'on s'est trompé, sciemment ou pas, eh bien pour revenir, il y a dans le cœur. Et puis, il y en a un qui se paie à nous rappeler que nous venons de prendre une peau de banane. Hein? S'il pouvait encore nous redonner des coups pour nous refaire chuter, c'est son rôle. Nous le savons. Donc veillons quelque part sur notre vigne, empêchant les petits renards et de venir manger ce qui est bon, ce qui est tout simplement des fruits que le Seigneur nous a donnés. C'est à nous. Donc veillons à garder précieusement tous ces trésors, à veiller sur notre vie spirituelle. Amen. Dans tous les domaines, sur le plan moral, on a besoin dans ce monde, justement, où nous voyons tant de choses. Ah oui. Seigneur,